Dans le cadre de notre partenariat avec le journal La Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie,
j'entends beaucoup parler de votre travail.
Retrouvez les grands titres du journal sur Divergence FM avec Françoise Verna,
je vous adore,
rédactrice en chef adjointe en charge de l'édition Occitanie.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Et comme toutes les semaines, nous allons parler de la une de la Marseillaise, puisque vous le savez maintenant, nous avons un partenariat avec l'hebdomadaire d'Occitanie. Nous avons toutes les semaines au téléphone Françoise Verna, qui aujourd'hui nous a fait l'honneur de venir en studio pour égrener la une de ce nouveau numéro de la Marseillaise à paraître ce vendredi. Bonjour Françoise.
Bonjour Bruno, ravi d'être avec vous.
Eh oui, nous aussi on est ravis de pouvoir enregistrer cette une dans nos studios. On essaiera de le refaire plus régulièrement.
Oui.
Et alors, quelle est cette une sur la nouvelle Marseillaise qui, je le rappelle, paraîtra ce vendredi ?
Oui, donc à la une, évidemment, nous avons consacré notre dossier au risque de méga-feux dans notre région. Malheureusement, on a vu qu'avec ce qui s'est passé dans les Cévennes, nous avons eu l'idée d'aller un peu plus loin avec les personnes qui s'occupent notamment de la prévention. Voilà, donc notre dossier cette semaine est consacré au méga-feux avec notamment l'interview du directeur du service d'incendie et de secours du Gard, qui est un des départements à côté de l'Hérault, qui a été fortement touché. On revient aussi sur la grève aux urgences dans les services hospitaliers de Montpellier. Depuis le 4 juillet, à l'appel de deux syndicats, la CGT et Force ouvrière, les salariés des hôpitaux publics sont en grève illimitée. Bon, évidemment, ils continuent à travailler, ils sont réquisitionnés. Et donc, on revient sur le pourquoi de ce mouvement de grève au long cours. Nous revenons aussi sur une loi qui est passée récemment et qui a été mise en œuvre à partir du 1er juillet. Elle porte le nom du député Vignal. Et en fait, elle permet aux personnes qui veulent changer de nom ou ajouter un nom de le faire très facilement. Et ça répond vraiment à un besoin, et on explique pourquoi à travers le témoignage d'une personne qui a porté ce combat. On est à Montpellier pour évoquer aussi dans le journal la relance de ce qu'on appelle les folies architecturales de Montpellier.
Qui a fait grand bruit sur Montpellier.
Oui, c'est un très gros dossier et dans cet article on explique l'historique, la genèse et l'avenir de ces folies architecturales. Et on propose aussi à nos lecteurs des rendez-vous culturels, bien évidemment, avec deux rendez-vous dans le Gard, dont le festival du film en plein air, qui se déroule à Nîmes très bientôt, qui a pour invité d'honneur Régis Varnier, un grand cinéaste. C'est très bien parce que c'est gratuit, c'est de grande qualité et c'est un événement vraiment à portée de tous. Et évidemment, on fait aussi un clin d'œil au grand festival de jazz à Sète.
Ah oui. Incontournable, plus grand festival de la région.
Sur un site merveilleux, le Théâtre de la Mer.
Ouais.
Voilà l'essentiel de notre une du 15.
Politique, sociale, société, économie, France et international, environnement, sport, culture et loisirs, la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie, c'est à retrouver tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.
À la une de la Marseillaise, le dossier porte sur les risques de méga-feux. Alors, c'est un nouveau terme, les méga-feux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors méga-feux, maintenant, c'est un terme qui devient de plus en plus utilisé par la sécurité civile.
Ouais.
Un méga-feu, c'est quoi ? C'est un feu qu'on n'arrive pas ou qu'on a du mal à maîtriser. Alors, évidemment, on pense à des pays comme l'Australie, les États-Unis, mais plus proche de nous, des feux comme au Portugal, qui, évidemment, ravagent les massifs et aussi détruisent des vies avec des habitations calcinées, parfois malheureusement des victimes.
Oui.
Donc ces méga-feux ont pensé être à l'abri dans le sud de la France, chez nous, sauf que très récemment, il y a un feu qui est parti, un méga-feu, qui a été qualifié comme tel dans les Cévennes, dans le Gard, et qui a mis en péril trois communes. Et donc nous sommes revenus sur l'après-feu auprès des maires, donc des maires de ces communes, notamment Digné Quéron, qui est le maire de Bordezac, oui. qui témoigne, ça a été la commune la plus touchée, 90% du massif forestier qui a été complètement carbonisé. Au total, 650 hectares qui ont été avalés par le feu. Alors, ça peut sembler évidemment modeste, comme, mais bon, à l'échelle d'un... Mais c'est quand même très important. Et donc, comment faire aujourd'hui ? La question que nous posons, c'est comment faire aujourd'hui pour prévenir et maîtriser. On a une sécurité civile et on a depuis, on va dire, une trentaine d'années et les grands feux, je pense à celui de la Sainte-Victoire dans les Bouches-du-Rhône dans les années 80, qui avait été un désastre complet. Il y a vraiment eu une culture de la prévention qui s'est mise en place. Sauf qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs une commission d'enquête parlementaire qui est allée dans le Var cette semaine, puisque l'année dernière, c'était le massif des Morts qui avait été en partie détruit. Pour justement réfléchir aux moyens pour contrer ces méga-feux. Et là, on touche une question pour nous centrale, qui est celle des moyens humains et matériels et des moyens donnés aux services publics. On met notamment l'accent sur l'importance des comités communaux de feux de forêt.
Oui.
Il faut savoir que dans notre département de l'Hérault, il y a 1200 personnes bénévoles dans 40 communes qui sont des vigies du feu. Et c'est un service de proximité indispensable. Or, si on dépouille de plus en plus les collectivités de leurs moyens, on peut se poser la question de la pérennité de ces comités des feux de forêt qui sont vraiment indispensables. Du comité de feux de forêt jusqu'au largage avec des gros avions, voilà, il faut tenir toute la chaîne. Et on est en période évidemment historique de réchauffement climatique. Et il est indispensable d'avoir des moyens pour les services publics. Or, on peut s'interroger sur la pérennité de ces services publics et donc il faut se battre et les collectivités le font pour avoir les moyens, notamment au niveau des SDIS qui relèvent des départements.
Ouais. Hein.
Et donc, nous avons l'interview du directeur du SDIS qui est Jean-Michel Langlais, qui est donc le directeur du service départemental du SDIS du Gard, qui explique les moyens mis en œuvre. Évidemment, il ne fait pas de politique au sens où on peut l'entendre, mais en exposant les moyens mis en œuvre, on voit bien que il faut pouvoir les pérenniser. Et c'est un petit peu le sens de notre dossier aussi, de dire dans le droit fil de ce que dit le GIEC, les experts du climat, qu'il faut des mesures importantes pour lutter contre le réchauffement climatique et dont les premières victimes sont les populations les plus vulnérables. Et donc, pour répondre à tout ça, pour nous, c'est ce qu'on dit dans notre éditorial, c'est les services publics, des services publics.
D'accord.
Voilà.
Et outre les moyens mis en œuvre aussi, parlons du civisme aussi. Déjà, là, on part sur un grand week-end férié. Ne pas fumer en voiture, pas jeter son mégot par-dessus la fenêtre.
Ne pas faire de barbecue. Il faut savoir que ce qui a provoqué, il y a eu plusieurs départs de feu dans le Gard le 7 juillet, mais ils ont réussi quand même. Il y a eu une broyeuse une simple étincelle suffit, et une débroussailleuse. On ne débroussaille pas maintenant, quoi. On le fait avant.
Et oui, l'hydrométrie est tellement basse que c'est pas le moment.
Exactement.
On passe à un autre sujet brûlant, la grève aux urgences à Montpellier.
Oui, alors depuis le 4 juillet, donc les urgences de l'hôpital La Péronie et les urgences tête et cou de Guy de Joliac observent une grève illimitée pour protester contre des conditions de travail dégradées. Alors évidemment, ce n'est pas nouveau. On a bien vu que la crise sanitaire avec la pandémie de Covid a mis en avant à la fois l'importance de l'hôpital public et aussi ses grosses faiblesses en termes de moyens humains aussi, hein, puisque aujourd'hui, les syndicalistes que nous interrogeons dans le journal nous expliquent que pour le CHU de Montpellier, il manque sur le papier 300 personnes.
C'est énorme.
C'est énorme, ça veut dire que pour l'instant, il y a 19% de fermeture de lits. On n'est pas simplement dans le cas des urgences saturées, là. On est vraiment dans le fonctionnement de l'hôpital. domaine.
C'est structurel, du coup.
C'est structurel. Et donc, on ne forme pas des soignants en claquant les doigts. Donc, et il faut aussi que ces métiers deviennent, redeviennent attractifs. Mmh. Or, la crise sanitaire a épuisé les soignants, a épuisé le personnel de l'hôpital public. Il y a eu des primes, mais c'est pas le mal, il est plus profond. Mmh. Alors, ce que disent ces salariés de l'hôpital public, c'est qu'il faut vraiment tout remettre à plat. Il faut aussi, en période estivale, que les structures privées, qui elles ne sont pas obligées d'accueillir tout le monde, hein, puisque l'hôpital public accueille sans distinction tout le monde, et c'est très bien. Il demande à l'Agence régionale de la santé, de l'ARS, donc une sorte de préfet de la santé, en fait, hein, de mettre aussi à contribution les structures privées. Et c'est vrai que l'ARS Occitanie a fait une sorte de mission flash pour dégager, voir où on pouvait dégager les moyens. Mmh. Mais ça va au-delà du fait de dire aux gens, n'allez pas aux urgences pour un petit bobo, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a aussi la médecine de ville. Oui. Donc, quand on est dans une ville comme Montpellier, qui est en croissance démographique depuis ces dernières années de façon exponentielle, il faut pareil que les services publics suivent. Et le service public hospitalier, c'est un service de base. On est tous concernés. Tous à un moment dans notre vie, on passe et on a besoin du service public, de l'hôpital. Et donc, ces mouvements de grève, évidemment, les soignants, ils ont le brassard en grève, mais ils continuent
ils
à soigner.
Ils continuent à travailler.
Voilà. Mais c'est un cri de on va dire, de colère et de détresse, mais aussi avec une construction de revendications pour pouvoir continuer à exercer leur métier. Mmh. Voilà.
Et on espère que le nouveau ministre qui vient des urgences pourra pallier à ça, mais ça ne va pas se régler en quelques jours.
Ça ne va pas se régler en quelques jours, mais le fait que, c'est vrai, bon, le gouvernement a été reconstitué. Il va falloir juger sur pièce les moyens qui vont être mis au niveau du budget, du prochain budget, du budget de la sécurité sociale. Les moyens qui vont être mis en œuvre. La sécurité sociale, elle a besoin aussi de cotisations. Et donc, on ne peut pas à la fois supprimer des cotisations au nom de l'économie libérale et après venir pleurer sur des services publics affaiblis. Oui. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Mmh. C'est un problème. Quand on dit c'est une question de société, c'est une question de choix politique.
Oui, absolument. Et puis, il ne faut pas oublier que tous ces soignants, pendant la pandémie, on les applaudissait tous les soirs. Et il ne faut donc pas les oublier maintenant.
Exactement.
Maintenant que c'est presque terminé.
Exactement.
Allez, on change de sujet avec le premier changement de nom enregistré à la mairie de Lunel pour la loi Vignal.
Exactement. Alors là, nous avons eu le témoignage de Marine Gatineau-Dupré. Mmh. Donc c'est une jeune femme qui a vraiment inspiré la loi qui porte le nom du député Vignal, qui est entrée en application le 1er juillet. Donc elle permet tout simplement d'ajouter ou de changer de nom avec une démarche qui est simplifiée. Il suffit d'aller à la mairie et notamment la mairie d'Unel a été la première à enregistrer ce premier changement de nom. C'est Marine Gatineau Dupré a créé en 2020 un collectif Porte mon nom, parce que c'est bon, la vie fait que bon, voilà, elle a été séparée du père de ses enfants avec le nom du papa, mais elle a toujours dû se battre pour justifier sa filiation, et ça c'est insupportable. Il y a des cas encore plus dramatique que ça, où porter le nom du père est insupportable pour X ou Y raison. Et donc maintenant, c'est simplifié. C'est une loi qui peut sembler comme ça. C'est pas anecdotique, hein, parce que le nom, c'est très symbolique, c'est chargé, c'est notre identité. Oui. Et donc, aujourd'hui, tout citoyen a la possibilité de changer de nom ou de le compléter une fois dans sa vie, en prenant un simple rendez-vous en mairie.
Donc voilà, la démarche est simplifiée.
Elle est complètement simplifiée. Donc, ce qui est important, c'est que le père ou la mère pourra également adjoindre son propre nom à celui de son enfant sans l'autorisation préalable. Donc c'est voilà, ça facilite le quotidien, mais ça facilite aussi des questions qui sont beaucoup plus profondes et intimes. Donc voilà, on voulait aussi souligner la mise en œuvre de cette loi et la populariser aussi, parce que ça fait pas partie, on va dire, des lois qui ont fait le plus parler d'elle, mais elle est positive.
Oui, et puis on peut dire que c'est avec tous les reculs de société que l'on peut voir ces dernières années, on peut dire que là, il y a un vrai avancement dans nos sociétés,
oui.
dans l'acceptation de plein de choses que ça peut soulever derrière.
Exactement, et pour l'égalité homme-femme aussi, c'est
Exactement.
Très important. Femme-homme, on le dit dans le sens qu'on veut, c'est l'égalité. Voilà, il faut se battre pour l'égalité, toujours. Et cette loi fait partie de cet arsenal, on va dire arsenal, de ce dispositif qui sont mis vraiment à disposition du citoyen pour pouvoir avoir une vie plus acceptable pour lui-même, hein, plus paisible, on va dire, hein. Et voilà, porter le nom pour un enfant de son parent, c'est important.
Oui. Et puis on peut comprendre toutes les histoires qu'il peut y avoir derrière tout
oui,
ça.
Oui, exactement. Voilà.
On passe à l'architecture,
oui.
Les 13 nouvelles folies architecturales de Montpellier. Est-ce qu'il s'agit bien de folie ?
Alors, évidemment, ce terme de folie, il a une origine historique. Hein, c'est le XVIIIe siècle. C'est les familles, on va dire, de la noblesse qui se faisaient construire de très belles demeures qui ont pris le terme de folie parce que évidemment, il y avait un côté, un côté un peu fou, certainement. Hein, et donc, il y avait aussi un parti pris extravagant dans l'architecture. Montpellier est une ville d'architecture. Ça c'est vrai.
Ça dépend les quartiers.
C'est vrai, mais c'est vrai que quand on vient de la place de la Comédie jusque dans les locaux de Divergence, on peut admirer certains beaux bâtiments. C'est vrai qu'il est une ville aussi très populaire, Montpellier. Hein. On n'oublie pas qu'il y a beaucoup de Montpelliérains qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.
Oui.
Hein, c'est 20%. C'est comme à Marseille. À Marseille, ça peut être plus visible entre guillemets, puisque le centre est très populaire. À Montpellier, on va dire que peut-être cette architecture justement et ces nouveaux quartiers qui sont sortis de terre, puisqu'on parle de la surdouée, hein,
oui.
C'est pas un terme qu'on donne à n'importe quelle ville. Enfin, il y a peu de villes qui sont surnommées la surdouée. Et là, donc, le maire Michael Delafosse a décidé de relancer le programme des folies qui avait été mis en œuvre, on va dire, il y a quelques années déjà.
Mmh. Avec l'arbre blanc qui était sorti de terre.
Exactement. Exactement. Et là, donc, il y a un appel à projet qui a été lancé là, pour le mois de juillet. Il y en a un second qui va être lancé cet automne pour 13 projets architecturaux dans les quartiers de Montpellier, avec un cahier des charges où il va falloir que les architectes et que les promoteurs, puisque ça va être des candidatures avec des groupements, hein, promoteurs, architectes, installés architectes, on va dire, de la nouvelle génération, qui vont devoir répondre à un cahier des charges pour que Montpellier devienne une ville éco-responsable. Voilà.
D'accord, donc ouais. c'est pas simplement sur le côté architectural,
non.
mais...
Ça va être, oui, voilà, proximité avec le tramway, matériaux, voilà, qui soient pas... Puisqu'on sait que le bâtiment est responsable des émissions de gaz à effet de serre. Je crois que... Je veux pas dire de bêtises, mais c'est en deuxième position après le trafic routier.
D'accord.
Donc, le bâtiment, les nouveaux bâtiments doivent répondre à des normes. Donc voilà, on explique tout ça, à la fois l'historique, puisqu'en 2012, il y avait eu une première vague de projets architecturaux. Michael Delafosse était à l'époque
à l'urbanisme.
Donc c'est quelque chose qui lui tient vraiment plus qu'à cœur, puisque en fait, c'est un amateur, on va dire, il a un terme, que la ville soit une poésie urbaine. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est... Alors, il faut voir après comment un des grands défis, parce qu'évidemment, il y a des grands professionnels, donc ils vont répondre et ça va être des projets qui vont être ensuite choisis par des commissions d'appel d'offres. Hein. Comment les habitants, les Montpelliérains vont aussi être associés et s'emparer, parce que c'est leur ville qui se construit. Le principe, c'est aussi de faire de la ville sur la ville, c'est-à-dire de plus être dans l'extension, mais d'être dans voilà. Donc ça va être de la hauteur.
Et oui, ça, c'est un gros.
Il y a plus de place. Et la hauteur, c'est quelque chose qui est très. C'est un signe aussi urbanistique et un signe politique de faire de la hauteur, de faire de la hauteur pour pouvoir continuer à loger. Puisqu'il y a des vrais problèmes de logement qui sont très très forts. Ouais. La ville a mis en place le permis de louer, donc s'attaque aussi à cette question du logement. Le logement est cher à la location privée, il faut du logement social. Et dans ces nouvelles folies, il y aura du logement accessible.
Donc ça, c'est bien, parce que je ne pense pas que l'arbre blanc ait du logement accessible. Je m'avance peut-être, mais c'est bien que ce soit accessible à tous, ces folies.
Je pense qu'il faut... En tout cas, c'est la clé de la réussite, la mixité sociale.
Absolument.
Et répondre aux besoins de logement, puisque le logement est un droit. C'est un droit absolu. Donc voilà, ce sont des folies architecturales, ce ne sont pas des caprices architecturaux. Enfin, en tout cas, on le pose comme ça dans le journal, en expliquant et en suivant, on va suivre de très très
c'est
près.
C'est ce que j'allais vous dire, j'imagine que vous allez suivre le dossier de très près. Oui.
Tout à fait, mais on a déjà un bel aperçu dans l'article signé par Catherine Vintrinier, la journaliste de l'Hebdo, qui va suivre ce dossier de façon très attentive.
Allez, on change complètement de sujet avec deux événements culturels, un dans le Gard et un sur Sept.
Oui, tout à fait. Alors dans le Gard, en fait, j'en voulais parler de deux événements. Parce que il y a une association qui se nomme Luminagora. Luminagora, c'est une association qui propose de mettre en valeur le patrimoine cévenol du Gard. Et tout au long de l'été, donc on donne toutes les dates dans l'édition de vendredi. Par exemple, il y a un spectacle qui s'appelle Les fantômes de la mine à Alès.
Ouais.
Donc en fait, ce sont des déambulations nocturnes à 150 mètres sous terre dans un ancien site minier. Alors, il s'agit de visites animées avec des comédiens qui sont disséminés dans toute la galerie. C'est ce que nous explique donc l'association. Et les spectateurs vont pouvoir croiser des ouvriers de l'époque en immersion sonore et vidéo. Donc, c'est une plongée incroyable dans l'univers des mines des Cévennes qui font partie du patrimoine. Et on peut encore rencontrer, ce sont des personnes âgées maintenant, mais on peut encore rencontrer, ils sont encore vivants, des mineurs des Cévennes. Et c'est toujours très... pour en avoir rencontré, on est toujours saisi d'admiration incroyable quand on voit ces personnes qui sont allées gagner leur pain au fond des entrailles de
oui,
la terre.
Ça nous paraît presque de notre
voilà,
temps.
C'est... Exactement. Il y a aussi 20 000 yeux sous la terre à la Grand Combe. Il y a les Secrets du Rhône à Villeneuve-les-Avignon à côté.
Ouais.
Donc voilà. Donc ça, c'est un événement dans le Gard qui est très important. Sur lequel on voulait mettre l'accent. Et puis évidemment, le grand festival de cinéma en plein air. Alors là, c'est fantastique parce que il y a une affiche toujours merveilleuse. Là, c'est Régis Varnier, grand cinéaste, qui sera là. Et il y a 5 soirées qui seront consacrées à ces films. Chaque film est précédé d'un court-métrage qui a été réalisé par des lycéens gardois. Donc ça aussi, il y a la nouvelle génération qui arrive. C'est complètement gratuit. C'est en plein air. Donc c'est de la culture populaire et c'est de l'éducation populaire, l'éducation à l'art. Et on peut saluer cette initiative une nouvelle fois. C'est entre 2000 et 3000 personnes qui participent et qui viennent. Ah oui, à partir du moment où il y a qualité et gratuité.
Ouais, et oui.
Et en plus, ça se déroule alors que le cinéma est en crise. Hein. Mm-hmm. La pandémie aussi a. Je sais plus qui disait là, le plus grand ennemi des artistes aujourd'hui du spectacle ou du cinéma, c'est le canapé.
Et oui.
Voilà. Donc.
Et le grand écran.
Voilà. Et le grand écran. Et donc cet événement là. Permet de mettre à portée de tous un art qui se déguste vraiment sur grand écran.
Et puis c'est bien de sortir des salles obscures et de voir un film en plein air aussi.
Exactement.
C'est une autre façon de consommer entre guillemets le cinéma.
Disons que l'été permet ça et c'est vrai que énormément de villes se mettent à faire des séances en plein air. Le plus anime, c'est qu'on a un grand cinéaste Régis Varnier qui est là, quoi. Mmh. Voilà, donc les deux événements du Gard et dans l'Hérault, même si on n'est pas amateur de jazz, il y a une affiche du festival Jazz à 7 qui est là aussi à portée, on va dire, de tous.
Oui, c'est très diversifié, pas du jazz pur et dur comme on peut l'entendre. Et puis, comme vous disiez, Françoise, même si on n'est pas amateur de jazz, le cadre fait qu'on va le devenir.
Mais disons que le Théâtre de la Mer, c'est un des plus bels endroits. Endroit pour aller écouter de la musique, partager des moments de convivialité avec le public, avec des artistes qui prennent un grand, grand plaisir à être là. La Méditerranée derrière eux, le public devant. Et donc, les notes n'ont pas la même saveur.
Ah non,
donc voilà, donc, on a des grands, grands du jazz. Alors, évidemment, Herbie Hancock qui sera la veille à Marseille au Festival des 5 continents et il sera à 7 le 20 juillet. C'est l'occasion peut-être de le voir pour une des dernières fois. Pourquoi j'insiste sur Herbie Hancock? Parce qu'il est ça a toujours été un passeur de culture musicale.
Absolument.
Et voilà. Et avec une musique qui est du coup extrêmement on ne peut que être enveloppé par cette musique-là. Il y a évidemment d'autres grands qui vont être sur la scène. Le tarif est relativement... ça va de 33 euros et certaines personnes très amateurs...
Il y a le pass,
57 euros pour deux jours. Ça veut dire que c'est 4 concerts en tout puisqu'il y a toujours deux artistes à l'affiche pour chaque soirée. Donc c'est vraiment très très beau festival avec cette envie aussi de faire partager la culture musicale puisque outre les soirées, il y a aussi des animations dans toute la ville de Sète, là cette fois-ci complètement gratuite qui donne donc c'est vraiment l'objectif des de Louis Martinez qui est le fondateur donc du festival et c'est vraiment sa volonté la culture populaire et l'éducation populaire au beau et on a besoin de beau.
Oui, et puis alors la ville de Sète se met chaque année, même si c'est toute l'année, mais particulièrement pendant l'été, au diapason de la culture, parce qu'on peut parler de jazz à Sète, mais il y a aussi Fiesta Sète, le K-Live, vraiment.
À chaque fois, ça nous prend des pages et des pages, nous, quand on veut parler de Sète.
Il faut courir à Sète, parce que c'est un gros lieu de la culture.
Et puis c'est une ville extra... Et même pour déambuler dans Sète, aller voir les musées, aller voir le cimetière en Restanque, qui n'est pas du tout un lieu morbide, mais un lieu fabuleux. Très poétique.
Qui est juste à côté du Théâtre de la Mer, en
Exactement.
Plus.
Exactement. Et puis, on va voir aussi le Miam de Hervé Di Rosa.
Absolument.
Voilà. Donc, voilà, on peut passer un été merveilleux dans cette magnifique ville.
Merci beaucoup, Françoise.
Merci à vous.
Alors là, c'était notre dernier enregistrement
de la saison.
Et puis, on se retrouve évidemment pour égrener la une de la Marseillaise début septembre.
Début septembre, voilà. Et en attendant, écoutez Divergence et lisez la Marseillaise.
Merci Françoise.
Merci.
en partenariat avec Divergence FM, retrouvez chaque semaine sur l'antenne du 93.9 les titres de la Marseillaise, l'hebdomadaire d'Occitanie avec Françoise Vernat. La Marseillaise, c'est tous les vendredis en kiosque et sur le www.lamarseillaise.fr.